richesse, la commune, aimée, c'est la porte.
Ensemble sur Calade.
Le prof Patrick.
Allez, avec nous en studio, le prof Patrick pour sa chronique hebdomadaire. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Ça va bien, en forme ?
Ça va, l'été arrive, on est content, tout va bien.
Bon, alors, de quoi est-ce que vous nous parlez ?
Ah, aujourd'hui, c'est le suspense. Je ne vais pas dévoiler tout de suite. Je vais y venir petit à petit, tu vas voir.
Très bien, on vous écoute.
Alors, je commence. Mathieu, on a l'habitude de considérer que le point de vue des gens de droite sur les êtres humains est plutôt un point de vue pessimiste. On peut penser pour ça, pour illustrer ça, à une réplique d'un film célèbre dans lequel un personnage joué par Jean Gabin, le film s'appelle La traversée de Paris de Claude Autant-Lara, Jean Gabin qui s'adresse à deux boutiquiers qui font du marché noir. Voilà ce qu'il dit Jean Gabin, je vais essayer d'y mettre le ton. 50 ans chacun, 50 ans de conneries, qu'est-ce que vous faites sur Terre tous les deux? Vous avez pas honte d'exister, salaud de pauvre. Je joue bien Jean
pas
Gabin.
Mal,
hein.
Pas mal, on y était.
Réplique célébrissime, symbolique des anards de droite.
Salaud de pauvre.
Voilà, exactement. Et bon, on a l'habitude aussi de considérer que la gauche rassemble ceux et celles qui pensent qu'on peut changer la société, qu'on peut l'améliorer, qu'il ne faut pas se contenter de l'existant. Bref, un point de vue plutôt optimiste, d'accord ? Parce que la personne de droite, elle n'y croit pas un instant qu'on puisse améliorer la société. Elle est pessimiste, la personne de droite. Sauf que, j'ai toujours un petit sauf que pour mon cher Mathieu.
Il arrive vite aujourd'hui.
Ouais, il arrive rapidement aujourd'hui. Sauf qu'il me semble que les choses ont changé depuis quelques années. Et j'en suis venu à me demander s'il ne serait pas nécessaire d'intervertir les deux postures. D'où ma question qui est le titre de ma chronique aujourd'hui. L'optimisme est-il de droite?
C'est pas mal comme question.
Et voilà. On y va ?
Eh ben allons-y, je suis curieux maintenant.
Ouais, c'est parti. L'élément déclencheur de cette chronique, en fait, c'est un dossier d'une revue excellente qui s'appelle Books. Books, livre au pluriel, en anglais. Un mot sur cette revue. Elle sort tous les deux mois et elle contient uniquement des articles de la presse étrangère, principalement anglo-saxonne. C'est une façon de décentrer notre regard et de découvrir les débats hors de l'hexagone. C'est une revue qui est vraiment remarquable. Le numéro de mai-juin de cette revue annonce un dossier qui est intitulé « L'optimisme est-il un vilain défaut ?» Alors on y trouve notamment la critique de deux essais que je vais vous présenter maintenant. Le premier essai est intitulé « Le triomphe des Lumières » et c'est écrit par Steven Pinker. C'est un auteur qui est un Américain, spécialiste des sciences cognitives. Dans cet ouvrage, il s'attache à retracer les grands acquis de notre société depuis le 19e siècle, avec des faits, avec des chiffres, bref, du solide pour appuyer sa démonstration. Que ce soit dans la santé, dans la richesse, dans la paix, les droits de l'homme, dans tous ces domaines et bien d'autres, la situation s'est améliorée spectaculairement et continue encore de s'améliorer, même sur la période récente qu'on appelle la mondialisation, c'est-à-dire depuis les années 80. Et tu sais quoi, Mathieu ? Il a totalement raison.
Ouais.
Ouais, tout à fait. Alors, à côté de ça, ce qui l'énerve, Steven Pinker, c'est que malgré tout ça, la majorité de la population et des médias vit dans une atmosphère extrêmement pessimiste. On est assez d'accord, hein ?
Oui, oui, oui.
C'est vrai. Ainsi, quand on fait des tests tout bêtes, hein, des tests psychologiques, on obtient en très grande majorité des réponses pessimistes. Alors, on va faire un petit jeu pour illustrer ça. Mathieu, comment le nombre de décès par an dus aux catastrophes naturelles a-t-il évolué depuis 100 ans ? Trois réponses possibles. Réponse A, il a plus que doublé. Réponse B, ce nombre est resté à peu près identique. Réponse C, le nombre a chuté à moins de la moitié.
Bah, j'imagine que ça a diminué, qu'on gère mieux.
Voilà, mais c'est normal, tu es influencé par ma chronique. La majorité de la population répond A ou B. Et réponse vraie, c'est la réponse C, il a chuté à moins de la moitié. Autre exemple, au cours des 20 dernières années, les années de la mondialisation néolibérale, les affreux néolibéraux, hein, d'accord ? La proportion de la population mondiale qui vit dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire avec seulement moins d'un dollar par jour, cette population a, réponse A, presque doublé, réponse B est restée à peu près la même, réponse C a presque diminué de moitié.
Là, c'est plus difficile. Mm-hmm. Je dirais que c'est à peu près la même.
Ok, tu t'es trompé, elle a presque diminué de moitié.
Ah ouais ?
Ouais, tout à fait.
Donc ça va mieux ?
Ça va mieux globalement, voilà. Alors, on va parler maintenant du deuxième essai recensé dans la revue Books. C'est un livre d'un Danois qui s'appelle Bjørn Lomborg. Ce monsieur est statisticien et politologue. Et son livre s'appelle « Fausse alerte », avec un sous-titre que je vais te citer. Alors là, reste assis, tiens-toi bien. « Comment la panique liée au changement climatique nous coûte des milliards, nuit aux pauvres et ne permet pas de réparer la planète ?» Incroyable, non ?
Ah oui, c'est, ça a l'encontre de beaucoup d'idées.
Exactement. Alors attention, hein. Björn Lomborg ne nie absolument pas le réchauffement climatique et ne nie pas non plus son origine humaine. Ce n'est pas un abruti de climato-sceptique.
D'accord. Ouais.
D'accord. Mais, tout comme Steven Pinker, il utilise des faits, des données scientifiques qui proviennent des rapports du GIEC, hein, donc du solide, et aussi d'un rapport de l'administration américaine sur le climat, c'est du solide également. Tout ça pour prouver ses dires. Alors, il nous donne tout un tas d'exemples, je vais t'en donner un parmi tant d'autres. Le niveau de la mer a augmenté de 30 cm en 150 ans, d'accord ? Mais, dit-il, scientifiquement, rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer que les inondations qui en découlent soient en augmentation, ni non plus que l'homme soit la cause de ces inondations. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces inondations font bien plus de dégâts, d'accord ? Mais la raison de ces dégâts de plus en plus forts, c'est que les êtres humains ont la fâcheuse habitude de construire massivement dans des zones inondables.
Il y a plus de choses à détruire, donc forcément...
Exactement. Ouais. Ce que Björn Lomborg met aussi en avant dans son ouvrage, c'est la capacité d'adaptation des êtres humains. Et c'est ainsi, et là je vais revenir à ce que j'ai dit précédemment, que dans les années 20, les catastrophes naturelles tuaient 500 000 personnes par an. Ça rigolait pas.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est moins de 20 000 personnes par an. Mmh. D'accord ?
Donc 500 000.
Bon, alors Mathieu, arrivé là, tu dois te demander comment je vais retomber sur mes pieds, sur le titre de ma chronique, d'accord ? Si ces deux auteurs font des analyses factuellement exactes, ouais. Où est-ce qu'on va ? On y va, t'inquiète pas. Alors, on va revenir à Steven Pinker au premier essai, d'accord ? Steven Pinker, il attribue à la philosophie des Lumières tous les acquis qu'il décrit. Alors, c'est pas totalement vrai, hein, parce que, par exemple, la révolution industrielle n'est pas le fait des philosophes des Lumières. Alors, quand je parle des philosophes des Lumières, je parle des gens comme Voltaire, Diderot, Montesquieu, mais aussi Adam Smith, Kant, etc. Alors, c'est pas le fait des philosophes des Lumières. Mais cette posture lui permet de partir en guerre contre les penseurs d'aujourd'hui qui, selon lui, remettent en cause l'héritage des Lumières. Et c'est ainsi que, dans la deuxième partie de son bouquin, il fustige le postmodernisme, la critique de la science, il fustige l'influence pernicieuse, selon lui, de Nietzsche. Le problème, c'est qu'il le fait au prix d'une interprétation, d'accord, autant des philosophes des Lumières que des penseurs critiques d'aujourd'hui, qui tombent souvent dans la simplification. Alors un exemple, hein, les philosophes des Lumières, il les décrit de certaines manières, sauf que ce qu'il oublie de dire, c'est qu'ils n'étaient pas tous des philosophes athées, tous ouais. croyaient en Dieu, alors que lui, il a tendance à décrire un petit peu à l'opposé, parce que lui est athée. Autre exemple, il fustige l'ouvrage de Thomas Kuhn, qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques », sauf que cet ouvrage, que j'ai lu d'ailleurs, qui est un monument, n'est pas du tout un discours sur l'irrationalité de la science. D'accord ? Donc il transforme un peu la réalité. Quant à Nietzsche, Nietzsche a beaucoup critiqué la philosophie des Lumières, mais il est aussi resté un très grand admirateur de Voltaire jusqu'à sa mort. Mmh. Ouais, donc les choses sont plus compliquées. Pour finir, Steve Pinker fait un chapitre sur les inégalités dans son ouvrage, qui reproduit un discours, tiens, qu'on reconnaît un petit peu quand on est un prof Patrick comme moi, hein, d'accord ? Pour simplifier, le discours c'est on a une baisse spectaculaire de la pauvreté, on l'a dit tout à l'heure, d'accord, ouais. grâce à la mondialisation, ça vaut bien un peu d'inégalité en plus, vous n'allez pas nous faire chier les pauvres.
Ouais,
voilà, bon, j'ai simplifié un peu, mais c'est son discours. En quelque sorte.
On en revient à un salaud de pauvre.
Un petit peu, ouais. C'est vrai. Alors donc, on ne se situe plus dans la simple recension d'éléments factuels, comme tu le vois, mais là, on se situe dans un vrai discours politique. Un discours qui est fondé sur une vision du monde spécifique. Et parfaitement légitime, hein, on est d'accord. Alors Mathieu, on va garder Björn Lomborg, le deuxième Lascar, bien au chaud pour la chronique de la semaine prochaine. Parce que pour lui, il faudra aussi placer un petit sauf-que hein, des familles. D'accord ? Et le petit sauf-que en question, il me permettra la semaine prochaine de tenir une promesse que j'avais faite dans les chroniques du 20 et 27 janvier dernier. Ça commence à dater un petit peu. Cette promesse, c'était de vous expliquer pourquoi la science économique était incapable de penser les grands problèmes de notre monde. Tu te souviens peut-être ?
Oui.
J'avais parlé notamment du krach de 2008 et j'avais dit que je parlerais du réchauffement climatique.
Ouais.
Eh bien, merci Björn. La semaine prochaine, tu m'en fournis l'occasion. On parlera de ça. Mais concluons, et pour conclure, revenons à cette idée que la personne de droite ne trouve pas nécessaire de changer le monde. D'accord ? La personne de droite, en gros, elle a une vision d'un monde qui évolue selon des principes assez analogues à l'évolutionnisme de Darwin, c'est-à-dire un monde fondé sur la compétition, la sélection naturelle et que le meilleur gagne.
Ouais.
Et Steven Pinker nous en apporte des preuves factuelles et chiffrées du fait qu'il en ressort du mieux. Très bien. Mais bon, derrière cette vision un petit peu superficielle, la réalité, c'est que le monde évolue aussi grâce à des combats qui sont menés par des rebelles, qui sont menés par des militants, qui sont menés par des gens insatisfaits, qui, c'est vrai, ces gens-là ont tous une vision un peu noire des choses. C'est vrai. Mais, même si les Pinker et compagnie s'obstinent à regarder ailleurs, il est incontestable que les combats des insatisfaits ont massivement contribué à améliorer nos sociétés. Plus de démocratie, moins d'injustice, moins d'inégalité, des combats en cours contre les destructions environnementales et des combats pour inventer une autre société. Comme le dit Bill Gates, pour améliorer le monde, il faut que quelque chose vous rende furieux. Alors, l'optimisme n'est sans doute pas de droite, mais il peut être une arme rhétorique dans un discours de droite. J'en ai fini, Mathieu.
C'est vrai, c'est bien vu. Merci beaucoup, prof Patrick.
C'est un plaisir. Salut les auditeurs.
À très bientôt. Ciao, ciao.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble, sur Calade.
Excessif.
Le prof Patrick.